RFI, où il est 5h30 à Rome et à Paris, 3h30 en temps universel.
Édouard Dupenoit.
Rome, la cité du Vatican et la place Saint-Pierre qui est en train de rouvrir au public. Les obsèques du pape François se tiennent tout à l'heure entre la basilique Saint-Pierre et celle où sont inhumés les souverains pontifes. Radio France Internationale y consacre une large partie de ses antennes. Ce journal, cette première édition africaine, commence à Madagascar où un autre prêtre argentin, le père Pedro, se souvient de Georges Bergoglio. L'espoir un peu plus fort encore d'une paix dans l'est de la République démocratique du Congo. À Washington, les ministres rwandais et congolais des Affaires étrangères se disent prêts à travailler sur une ébauche d'accord de paix. Elle pourrait être prête d'ici une semaine. Une paix toujours aussi lointaine. En revanche, au Soudan, les paramilitaires FSR bombardent sans relâche El Fasher, dernière grande ville du Darfour qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils n'abandonnent pas complètement leurs prétentions sur Khartoum, la capitale. Des dizaines de milliers d'Afrikaners intéressés par la proposition d'asile de Donald Trump, le président américain, la minorité blanche d'Afrique du Sud qui continue à se dire victime de plusieurs discriminations. Et puis, la finale de la Ligue des champions africaines de football, finale dont on connaît l'affiche, surprise, le tenant du titre ne remplira pas cette année. Le cercueil du pape François sera donc porté en terre ce matin en la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. L'Église catholique célèbre les obsèques du souverain pontife décédé lundi dernier au petit matin. La messe sera d'abord organisée dans la basilique Saint-Pierre. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont attendus sur place, sans compter les dizaines de millions de catholiques qui suivront ces obsèques à la télévision ou à la radio. Ce sera le cas ainsi au village d'Akamassou, à Madagascar. Cette cité fondée sous l'impulsion du père Pedro, peut-être l'un des ministres du culte les plus émus à la mort de l'évêque de Rome, argentin comme lui, il avait reçu la visite de François il y a 6 ans. Et Sarah Teto est retournée sur place.
Ses portraits, hissés sur les murs des maisons en l'honneur de sa venue en 2019, n'ont jamais été décrochés. Souriant, le regard doux, pape François semble veiller à jamais sur les 21 000 habitants des villages d'Akamassou. Ce mercredi, dans le même gymnase où le Saint-Père avait été acclamé, père Pedro et quelques 6 000 enfants lui ont rendu un vibrant hommage en chanson.
Nous avons accueilli ici il y a 6 ans le pape François avec ses jeunes. Et ici, le pape, il a senti une joie énorme. Un bonheur qu'il ne oubliera jamais. Et ce qu'il m'a dit. Et nous l'avons chanté une chanson en espagnol. Alors on va chanter « Dios está aquí ».
Alza tiao.
Anareo.
Anareo. Le pape François, c'était un homme extraordinaire parce qu'il a voulu vivre l'évangile. Et il nous a vraiment aimés. Parce que pendant le Covid, il nous a aidés. Le pape, sans que je demande, je n'oserais jamais demander l'argent au pape. Et il nous a envoyé tout seul des sommes importantes. Je ne peux pas dire parce que, avec quelle discrétion vous voulez aider. Voilà.
Aujourd'hui, les habitants d'Akamassou et leur père Pedro prieront pour le pape, regroupés devant leur télévision en communion avec Rome. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et parmi les images qui resteront du pape ce jour où il a embrassé les pieds de Salva Kiir et de Riek Machar, c'était en 2019 au Vatican, en implorant les deux leaders sud-soudanais de maintenir durablement la paix acquise quelques mois plus tôt, une paix aujourd'hui plus qu'en péril d'ailleurs. François s'était rendu à Djouba aussi il y a 2 ans et RFI a retrouvé le père John Loboka Morris. À l'époque, il avait servi d'interprète au souverain pontife et il confie ses souvenirs à notre correspondante Florence Mietto.
Dès qu'il est descendu de l'avion, j'étais près de lui pour l'accueillir et aussi pour traduire les propos qu'il a adressés au président et que le président lui a adressés. Et lorsque nous sommes arrivés à la résidence du Vatican à Djouba, il m'a demandé où j'avais appris mon italien. Je lui ai dit que j'avais étudié à Rome, en Italie. Il avait l'air satisfait. J'étais heureux d'interagir avec lui. Il était très simple, très humble. Lorsqu'il s'est adressé aux diplomates, aux officiels du gouvernement et aux dirigeants de l'Église, il utilisait un langage lié aux questions de justice, de paix, de progrès, de partage des ressources, de construction d'une société qui soit équitable pour tous. Et puis, il y a eu aussi ces interactions avec les gens ordinaires, en particulier lorsqu'il a rencontré les personnes venues des camps de déplacés. Il a alors utilisé un langage très simple qui lui a permis de s'adresser au peuple. Mais plus que tout, c'est sa présence en elle-même qui a parlé. Tout le monde savait qu'il était faible car sa visite avait été annulée auparavant. Et quand les gens l'ont vu arriver en fauteuil roulant, tout le monde a compris. tout le monde a compris qu'il venait appeler à l'unité, à la paix, à la fin de la violence, et c'était précisément son message.
John Loboka Morris avec notre correspondante à Djouba. RFI bouleverse enfin ses antennes pour les obsèques du pape François. Édition spéciale autour de Julien Coquel-Rohem et de ses invités à suivre dès 8h en temps universel. La République démocratique du Congo et le Rwanda se donnent une semaine pour parvenir à une ébauche d'accord de paix. Déclaration conjointe signée hier par les deux ministres des Affaires étrangères à Washington, sous l'égide de Marco Rubio. D'ici au 2 mai prochain, Kinshasa et Kigali veulent être prêts à signer les modalités d'une paix durable dans l'est de la RDC. Mais alors, que dit ce texte signé hier ? Paul Lorgerie, à quoi les deux pays semblent-ils être disposés à s'engager ?
Il s'agit là d'un document qui reflète l'engagement politique des parties rwandaises et congolaises, mais surtout les revendications des deux pays dans ce conflit qui les oppose. Kigali et Kinshasa promettent de reconnaître la souveraineté et l'intégrité territoriale de leurs voisins. Pour ce faire, les préoccupations sécuritaires devront être résolues au sein d'un mécanisme de coordination. Le but, éviter la prolifération des groupes armés non étatiques, mais surtout empêcher, je cite, « tout soutien militaire d'État à ces groupes ». Un paragraphe qui, s'il tait le nom des rebelles, n'est pas sans rappeler la collaboration du Congo avec les FDLR d'un côté et l'appui rwandais à la FCM-23 de l'autre. Tout cela étant censé entraîner l'accroissement considérable des investissements, note le document, dont ceux facilités par les autorités et le secteur privé des États-Unis. Fin de citation. Des investissements à l'heure où des contrats miniers entre Kinshasa, Washington et d'autres pays de la région sont en discussion. Un engagement de retour à la stabilité qui doit déboucher le 2 mai sur un projet d'accord de paix. Si les ministres congolais et rwandais des Affaires étrangères ne se sont pas serré la main, une première rencontre bilatérale a eu lieu à l'issue de la signature, selon Kinshasa. Et d'autres sont prévues à Washington dans les prochains jours sous l'égide de Marco Rubio.
Paul Lorgerie, la guerre au Soudan continue en revanche de faire rage et s'embrase de nouveau aux abords de Khartoum. Dans le Darfour d'abord, les FSR du général Hemeti pilonnent toujours la ville d'El Fasher qui échappe à leur contrôle. Au moins 30 morts ces derniers jours dans cette cité, assiégée d'ailleurs selon un réseau de médecins. Tandis que les paramilitaires reprennent aussi leur bombardement contre l'armée régulière, cette fois non loin de la capitale, notamment près d'Omdourman, Ouda Ibrahim, cette ville mitoyenne de Khartoum.
Après avoir reçu du renfort au sud et à l'ouest d'Omdurman, les FSR ont visé la capitale à l'artillerie lourde, montrant clairement leur intention de harceler l'armée après leur recul militaire dans plusieurs états du Soudan. Les bombardements des FSR ont également touché des quartiers à Omdurman. Des affrontements ont eu lieu sur l'axe sud-ouest de la ville, à Salha, le seul endroit où les paramilitaires possèdent encore une base à Khartoum. Fidèles à leur stratégie de détruire les infrastructures comme depuis le début de la guerre, les FSR ont visé hier, moyennant des drones, la station électrique de Atbara. Résultat, les deux états de la mer Rouge et du Nil sont plongés dans le noir. Toujours à Atbara, dans l'état du Nil, des drones ont frappé le camp de déplacés Moukren. Selon le réseau de médecins soudanais, il y a eu 11 victimes civiles, dont 4 enfants. Selon le gouverneur du Kordofan de l'Ouest et le réseau de médecins soudanais, un massacre a été commis par les FSR dans la localité de Zaafa. 76 civils ont été tués. De nombreux habitants sont portés disparus après avoir été embarqués par les paramilitaires.
Des affrontements meurtriers cette semaine encore en Somalie. Maintenant, avant-hier, dans le centre du pays, entre des combattants islamistes du groupe Al-Shabaab et l'armée régulière. Le ministère de l'Information annonce la mort de 40 insurgés islamistes durant l'intervention. La base militaire de Ouargadi semblait bien être la cible de cette milice. Et le chercheur Omar Mahmoud de l'International Crisis Group explique que cette attaque illustre la volonté du groupe terroriste de se renforcer dans cette région en particulier.
Je pense qu'Al-Shabaab a attaqué des positions gouvernementales là-bas et les a temporairement prises, mais ils se sont ensuite retirés et le gouvernement a repris le contrôle de la zone. Cela s'inscrit dans un contexte plus large. Au cours des derniers mois, Al-Shabaab a ciblé cette région particulière de la Somalie et surtout le Moyen Chebeli. Ouargadi est situé près de la route qui relie le Moyen Chebeli plus au nord jusqu'aux zones de Galgoudoud. Certaines villes de cette région et d'autres alentours étaient des localités clés que le gouvernement avait reprises en 2022 et 2023. Le but pour Al-Shabaab, c'est de consolider sa présence le long de cette route. De là, ils peuvent couper les positions de l'armée situées plus au nord et peut-être les reprendre également. Je pense que le groupe progresse dans cette zone. C'est ce que nous observons depuis quelques mois.
Omar Mahmoud, chercheur à l'International Crisis Group. À 6h40 à Mogadiscio, même heure à Johannesburg, on en vient à l'Afrique du Sud et à la minorité blanche qui prend au mot la proposition de Donald Trump de lui offrir l'asile. À peine entré en fonction, le président américain avait dénoncé, via une infox sur une loi de répartition des terres d'ailleurs, les discriminations dont il affirme que les Afrikaners sont victimes. Et selon la Chambre de commerce sud-africaine aux États-Unis, 67 000 personnes ont déjà manifesté leur intérêt pour la proposition du milliardaire. L'ambassade américaine à Pretoria a même commencé à recevoir ces nouveaux demandeurs d'asile, se disant victimes de discrimination raciale, comme nous le raconte Joséphine Kleckner.
Selon certains Afrikaners qui ont passé un entretien, le récit des persécutions qu'ils affirment subir a été reçu avec empathie par les autorités américaines.
Parmi ces fermiers qui ont été entendus, certains ont reçu une réponse positive et certains sont littéralement sur le point de partir pour les États-Unis.
Katia Beeden, porte-parole de Americaners, une organisation fondée tout récemment pour aider les Blancs souhaitant entreprendre la démarche. Elle-même coach de développement personnel au Cap, arborant fièrement la casquette rouge pro-Trump sur les réseaux sociaux, elle estime qu'il n'est plus possible de vivre décemment en Afrique du Sud.
En tant que femme, j'ai déjà vécu des expériences de crimes terribles, des crimes très violents, des vols de voitures, des cambriolages. Je ne peux même pas marcher près de chez moi sur la montagne, car je risque d'être volée et violée.
L'Afrique du Sud est l'un des pays avec la plus forte criminalité au monde, et si elle touche majoritairement les Noirs, les Afrikaners comme Katia clament être davantage ciblés par les crimes à caractère raciste, ce que dénonce le gouvernement. Ils estiment aussi être persécutés par les lois de discrimination positive.
J'ai travaillé dans la publicité pendant près de 15 ans. Soudain, toutes les grandes agences avec lesquelles je travaillais ont été obligées de recruter des partenaires noirs. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à perdre nos emplois.
Katia espère bientôt être elle aussi reçue pour un entretien. L'ambassade des États-Unis n'a pas communiqué le nombre de demandes ou de réponses déjà accordées. Joséphine Klockner, Johannesburg, RFI.
Et comme promis, on en vient au football et à la Ligue des champions sur le continent africain qui proposera une finale complètement inédite dans un mois sans le double tenant du titre, l'Al Ahly du Caire, puisque les Mamelodi Sundowns, club sud-africain, ont mis fin au règne des Diables Rouges. Un autre club de la capitale égyptienne pourrait tout de même garder le trophée de vainqueur en Égypte. Le club de Pyramids, en l'occurrence, qui sera finaliste pour la première fois de son histoire. Babacar Diarra.
Encore une marche et le Pyramids FC figurera parmi les monuments du football africain. Le club qui monte en Égypte, porté par des fonds émiratis, continue son chemin vers un triplé historique championnat Coupe Nationale Ligue des Champions de la CAF. Pour se sortir des demi-finales de cette dernière, le club Kairot au maillot bleu ciel s'en est remis au talent de son attaquant congolais, Fiston Mayele, désormais co-meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Le Léopard a été crucial avec un doublé dans une demi-finale retour spectaculaire pour renverser les Orlando Pirates, battus 3-2 après le 0-0 de l'aller à Johannesburg. Pyramids vivra sa première finale de C1 face à un cador continental, mais pas un voisin, car à force de vouloir gérer leur avance, les aigles de l'Al Ahly ont fini par se brûler les ailes. Devant au score pendant près d'une heure, les doubles champions en titre se sont fait piéger par un but contre leur camp. Un partout, scénario parfait pour Mamelodi Sundowns après le 0-0 de l'aller à domicile. Les Brésiliens de l'Afrique accueilleront le 24 mai prochain à Pretoria la manche aller de cette finale de Ligue des Champions, disputée en format aller-retour. Le vainqueur sera connu une semaine plus tard au Caire.
Babacar Diarra, merci beaucoup. Toute l'actualité sportive en longueur dans une heure avec Antoine Grenier.
Afrique Matin sur RFI. Édouard Dupenoit.
La suite d'ici au prochain journal à 4h en temps universel dans 16 minutes. On parlera plus en longueur du pape François et de sa relation au continent africain avec François Soudan, notre confrère du magazine Jeune Afrique, et avec l'invité de RFI, Brice Makosso du diocèse congolais de Pointe-Noire. Avant cela, comme hier, on remonte loin, bien loin avant Jésus-Christ. Puisque nous sommes de retour dans le parc de l'Opéokanda, témoin des tout premiers hommes de l'histoire du Gabon. C'est ici que des traces humaines vieilles de près de 400 000 ans ont été identifiées, ici aussi que l'on peut observer l'évolution progressive de ces peuples premiers à travers les âges. C'est pour ce patrimoine préhistorique que le parc de l'Opéokanda est entré dans les classements de l'UNESCO. Un patrimoine que l'on vous emmène observer ce matin à l'écomusée de la Lopé. On y voit comment l'humanité a appris à se servir de différents outils, de la simple pierre brute au tranchant du métal. François Mazet remonte le temps.
Le bâtiment est modeste, mais les fresques colorées des façades attirent l'œil au départ du chemin pour le Mont Brasa qui surplombe la vallée de l'Ogoué. Chargé de l'écomusée, Wilfried Madidongo détaille les objets et l'évolution du travail de la pierre dans la région depuis 400 000 ans.
Ancienne. Quand vous regardez les formes, elles sont un peu pâteuses. Ils avaient besoin d'une partie pour trancher, découper et peut-être d'épaisser.
On voit que c'est des silex coupés assez grossièrement.
Grossièrement, oui. On quitte là, on vient à la pierre moyenne, les formes commencent à changer. On a quand même des semblants de tranchants.
Au fil des millénaires, les tranches s'effilent, les outils prennent des formes différentes.
Les formes sont un peu plus affinées. On a les pierres à rayures. Vous voyez que cette tête de hache, elle est bien polie. Ici aussi, on utilise déjà les baguettes, trucs en ivoire, les ossements.
Pointe de flèche, affûtoir, lame de hache, l'ère de la spécialisation débute. Prosper Prost Ntutumba est le conservateur adjoint du parc en charge du patrimoine.
Nous tendons vers la miniaturisation, parce que ce sont des chasseurs-cueilleurs. Donc dans leur déplacement, ils laissent du macro. Pour se dire, au prochain site, on pourra fabriquer d'autres outils.
Au néolithique, les poteries apparaissent pour la conservation de l'eau et de meilleures cuissons des aliments.
Les fabricants laissent une signature sur leur réalisation. Ce n'est pas des œuvres anonymes. Donc cette façon de décorer, ça a été vu pour la première fois au Gabon sur le site qu'on appelait Epona et qui laisse donc une sorte de signature.
L'âge du fer débute dans la région vers 400 avant Jésus-Christ. Les forgerons occupent une place sociale centrale. C'est aussi le début de pratiques mystiques. L'écomusée propose enfin de découvrir les traditions plus récentes des peuples okandais, gourdins, saguets, gibecières, pièges à poissons ou encore les attributs du juge coutumier.
Ça, c'est la queue du buffle, qui est symbole de pouvoir parce que le buffle c'est un animal. Ici on a le kendo. On les appelle. On a quatre sons. Donc chacun peut représenter une situation. Ici, celui-là annonce la chasse, le mariage, les naissances. Ça peut être la mort. La pêche, la cueillette.
Les équipes des parcs nationaux aimeraient un agrandissement de l'écomusée construit en 1996 pour attirer davantage de visiteurs que les 700 passés l'an dernier et relancer les programmes éducatifs et les visites des écoliers. François Mazet, de retour du parc de l'Opéokanda, RFI.
Trois reportages hier, aujourd'hui et demain que vous réécouterez sur notre appli RFI Pure Radio. 5h47 à Paris, les grandes lignes de l'actualité internationale et les funérailles du pape François ce matin à Rome. Elles commenceront place Saint-Pierre à 10h, 8h temps universel. Le souverain pontife sera inhumé à la mi-journée en la basilique Sainte-Marie Majeure. 200 000 fidèles sont attendus. Édition spéciale sur notre antenne, édition spéciale aussi sur RFI.fr dès 7h en temps universel. Donald Trump assure que la Russie et l'Ukraine sont très proches d'un accord. Vladimir Poutine évoque quant à lui la possibilité de négociations directes entre Moscou et Kiev. Mais en dépit des pressions du président des États-Unis, son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, réaffirme pour sa part que la Crimée, annexée par Moscou il y a 10 ans et qui pourrait rester russe dans le cadre d'un règlement, Crimée donc appartient bien à Kiev. Et puis trois agences de l'ONU, l'UNRWA, le PAM et l'OMS, exhortent Israël à mettre fin à son blocus de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, qui expose les Gazaouis à la famine. La parole à nos confrères de Jeune Afrique, comme chaque samedi, François Soudan, le directeur de la rédaction, évoque évidemment les obsèques du pape François et les cardinaux africains susceptibles d'accéder à la tête de l'Église catholique. François Soudan avec Catherine Potet.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Avant de voir qui pourrait succéder au pape François, nous revenons avec vous sur les liens tissés par le pape avec l'Afrique. Quelle sorte de relation François avait-il avec le continent africain ?
Alors, le pape François a longtemps eu avec l'Afrique, qu'il ne connaissait pas hein, lors de son élection en 2013, une relation, je dirais, relativement ambiguë, à la fois une attirance, presque une fascination, un intérêt aussi pour un continent qui pèse quand même 260 millions de fidèles catholiques, mais aussi une certaine méfiance, une prudence face à un univers culturel très loin du sien. Sur les 47 voyages qu'il a effectués hors d'Italie pendant ses 12 années de pontificat, seuls 5 ont eu lieu sur le continent africain, dont 3 en Afrique subsaharienne, ce qui est tout de même relativement peu. Alors certes, François aura créé 17 cardinaux africains, mais ils ne sont qu'une petite poignée à figurer sur le riche organigramme de la curie romaine, comme si finalement ce pape jésuite avait eu quelque peine à appréhender la singularité de l'Église catholique africaine, qui est d'être à la fois conservatrice sur le plan des mœurs, des valeurs, du dogme, et progressiste sur le plan de la justice sociale, Catherine.
Les funérailles du pape ont donc lieu aujourd'hui, mais d'ores et déjà la question de sa succession est posée. Chaque continent a ses candidats potentiels et on se demande bien sûr si le prochain pape pourrait être africain.
Alors, soyons réalistes, Catherine, aucun originaire du continent n'est donné comme favori, mais dans la short list de la douzaine de papabilés avancés par les observateurs, trois cardinaux africains figurent au titre d'outsider crédible, ce qui n'est tout de même pas rien. Alors, il y a d'abord le cardinal ghanéen Peter Turkson, 76 ans, qui est l'actuel préfet émérite du dicastère, le ministère, si vous voulez, chargé du développement intégral. Turkson était l'un des piliers de l'agenda social, environnemental, migratoire de François. Très critique sur les dérives de l'économie libérale, un spécialiste de la finance éthique, un polyglotte qui parle six langues, il est sans doute le numéro un des outsiders africains. Et il y a ensuite le Congolais Fridola Ambongo, 65 ans, qui incarne lui à la fois l'engagement citoyen, la justice sociale, tout en étant conservateur sur le plan dogmatique, et qui joue avec un franc-parler redoutable le rôle de mauvaise conscience des présidents Kabila hier, Tshisekedi aujourd'hui. Il incarne aussi à la tête de l'Église catholique la plus puissante du continent, une force de résistance face à la déferlante des églises évangéliques du réveil. Handicap tout de même, Catherine, Ambongo est un cardinal de terrain, beaucoup plus qu'un vaticaniste, et surtout un cardinal de fraîche date. Ce sera son premier conclave.
Enfin, vous insistez, François Soudan, sur le cas du cardinal guinéen Robert Sarah. Et vous parlez d'un cas particulier.
Ah ben oui, figure à la fois médiatique et controversée du Vatican, Robert Sarah, qui fut à 34 ans l'un des plus jeunes évêques du monde et qui est aujourd'hui l'un des cardinaux les plus âgés, puisqu'il aura 80 ans dans un mois et demi. Il n'empêche qu'il fait l'objet en ce moment d'une très active campagne de promotion sur les réseaux sociaux de la part de milieux ultra-conservateurs aux États-Unis et en Europe. C'est le candidat du vice-président américain J.D. Vance, de Vincent Bolloré et de la galaxie intégriste. Il faut dire que Robert Sarah est un traditionnaliste assumé, qui fut un opposant au pape François, dont les positions sont très clivantes. Il est pour la messe en latin, le dos tourné aux fidèles. Il est contre l'adaptation du culte aux chants et aux langues africaines. Il lui est même arrivé de comparer l'homosexualité au nazisme et de faire sienne la théorie complotiste d'extrême droite du grand remplacement. Son élection, Catherine, ça signifierait l'entrée de l'Église dans une forme pour le moins radicale de mondialisation, qui est un peu celle voulue par Trump et Poutine, et c'est pour cela qu'elle est très improbable.
Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et merci à vous Catherine Potet. Vous revenez tout à l'heure pour les revues de presse. Cette relation du pape au continent africain que l'on évoque également avec l'invité de RFI ce matin. Quel souvenir l'Afrique gardera-t-elle de François ? Brice Makosso est le secrétaire général de la commission Justice et Paix au diocèse catholique de Pointe-Noire, au Congo. Il répond aux questions d'Esdras Dikoumana.
Brice Makosso, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est le jour des obsèques du pape François. Est-ce que vous pensez que cette cérémonie sera beaucoup suivie au Congo et au-delà, en Afrique ?
Absolument. Ici, au Congo, elle va être suivie, puisque dans mon entourage, le milieu des jeunes de notre église, nombreux ont dit qu'ils vont être à la maison devant la télévision.
Quel héritage va laisser le pape François au monde et surtout au continent africain ?
Écoutez, pour nous, en Afrique, en nous gardant l'image de ce pasteur de la paix, de la réconciliation et de la lutte contre les injustices.
Réconciliation et paix, est-ce que ce n'est pas un message récurrent chez tous les papes ?
Oui, mais je crois qu'au-delà, déjà par la symbolique, il a choisi le nom de François. François d'Assise, qui était ce grand saint de la paix. Et nous avons vu que lui, il est allé au-delà. Par exemple, en RCA, il est venu au moment où tout le monde craignait pour sa sécurité. Il est allé écouter les victimes de la RDC, des souffrances de la RDC. Et nous avons aussi vu ce geste qui restera très fort avec les leaders sud-soudanais en leur suppliant de faire la paix et en baisant leurs pieds. Donc c'est quelque chose de très fort qui restera ici en Afrique.
L'un des moments forts du pontificat de François, c'est lorsqu'il publie en décembre 2023 une déclaration qui prévoit la possibilité pour les prêtres de bénir des couples homosexuels, ce qui avait alors choqué l'Église et les croyants dans de nombreux pays africains. Est-ce que cela n'a pas signé quelque part le divorce avec une Église africaine très traditionnaliste ?
Ça n'a pas signé de divorce, puisque l'Église d'Afrique s'est exprimé de manière collégiale pour dire que cela n'entrait pas du tout dans la culture africaine. Et le pape a entendu ce message et le pape a accepté cette différence de point de vue de l'Église d'Afrique. Il n'y a donc pas eu de difficulté à ce niveau-là. Le pape a très bien compris la prise de position de l'Église d'Afrique à ce sujet.
Mais les croyants catholiques en parlent toujours jusqu'à aujourd'hui.
Oui, ils en parlent, mais ça n'a pas coupé le lien entre le Saint-Père et les chrétiens catholiques d'Afrique. Les chrétiens catholiques d'Afrique sont restés unis au Saint-Père. Et d'ailleurs, on en parle moins depuis le décès, on parle moins de l'épisode de Fudicia, de l'héritage que nous avons gardé de ce pape, homme de paix, homme de l'écologie, homme de la réconciliation.
Le conclave des cardinaux va bientôt élire le successeur de François. Est-ce que l'heure d'un pape africain sonnait comme certains semblent le croire?
Mais écoutez, l'Afrique a des cardinaux qui sont capables évidemment d'assumer ces hautes fonctions. Mais le plus important n'est pas de dire que c'est l'heure de l'Afrique, mais c'est plutôt de trouver des candidats capables de conduire l'unité de l'Église, de conduire les fidèles du monde entier vers l'amour de Dieu, vers le dessein de l'humanité.
Qui peut incarner le mieux cette unité? Est-ce un pape réformiste ou un pape conservateur?
Je ne pense pas qu'il faut parler de réforme ou de conservatisme. On veut un pape qui tienne compte de nos joies et de nos difficultés, qui en parle. On a vu que François a beaucoup parlé de la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup d'exclus, il y a de l'égoïsme qui monte. Et donc, on veut un pape qui tienne compte, évidemment, des problèmes actuels de notre société, les problèmes actuels de notre Église. Pour nous, l'Afrique, nous avons toujours ces problèmes de conflits, de guerres, avec des armes fabriquées en Occident. Voilà, donc ça, ce sont les vrais sujets qui nous intéressent. Comment l'Afrique peut au mieux profiter de ses ressources naturelles? On n'a pas besoin d'armes, en fait, pour le développement de l'Afrique.
Brice Makosso, merci.
Le secrétaire général de la commission justice et paix du diocèse de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, invité d'Esdras Dikoumana. Le retour de l'actualité internationale dans un peu plus de 3 minutes. Avant cela, regard sur une initiative qui croise le juridique et le culturel. Le Barreau des Arts fête cette année ses 5 ans d'existence et c'est l'occasion de vous présenter son travail. Ce sont des avocats et des juristes qui accompagnent bénévolement des artistes fragiles et précaires dans des domaines complexes, les droits d'auteur, les droits à l'image ou encore la propriété intellectuelle. Quand ces artistes font face à une machine qui parfois les dépasse. Un focus signé Olivier Roger.
Bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous?
Ça va. Et vous?
Avijit Ghosh est un peintre indien. Il vit dans un petit studio du 13e arrondissement de Paris. L'an dernier, il a fait appel aux avocats du Barreau des Arts alors qu'un imprimeur prétendait avoir des droits sur ses peintures.
Pour moi, c'est vraiment bien expérience. Quelqu'un, une société, une organisation, écoutez-moi.
Les avocats du Barreau des Arts ont étudié son dossier, puis adressé une lettre à l'imprimeur qui a abandonné ses demandes infondées. L'association gère ainsi une centaine de dossiers par an. Musiciens, plasticiens, comédiens, écrivains, tous les domaines artistiques sont concernés. Corentin Chimel, juriste et photographe, est l'un des cofondateurs de l'association.
Nous, on va prendre en compte deux critères, le fait donc que ça soit du droit d'auteur et que ça réponde aux critères de l'aide juridictionnelle, puisqu'on on va aider des artistes en situation de précarité. Ensuite, on va transmettre ce dossier à un étudiant bénévole qui va travailler dessus, qui va appeler l'artiste, qui va réunir des pièces complémentaires, puis à un avocat qui va prendre le temps de conseiller de manière vraiment personnalisée l'artiste sur sa problématique.
Le Barreau des Arts intervient sur les questions de droit d'auteur, les contrats, leurs déséquilibres possibles, les questions de plagiat et de contrefaçon. Lucie Tréguier, cofondatrice et présidente du Barreau des Arts.
Je pense que ce qu'on fait, c'est vraiment donner des outils en fait pour que l'artiste se sente en mesure de négocier face à parfois une institution ou un partenaire plus fort, entre guillemets, en tout cas qui est accompagné lui juridiquement, etc. Et donc d'être dans une position pour négocier.
L'idée générale est d'éviter d'aller jusqu'au procès. La plupart des cas se résolvent par la négociation. Aurélie Leroy, avocate.
Ce sera du règlement amiable du dossier. Donc on va aiguiller la personne en lui disant, voilà, on te conseille de faire valoir tes droits de telle manière, de revendiquer tel fondement et puis d'aller discuter avec la personne pour essayer de s'arranger, surtout dans le domaine de la musique qui s'y prête beaucoup.
75 avocats collaborent avec le Barreau des Arts. Tous le font pro bono, c'est-à-dire bénévolement. Lucie Tréguier.
Je pense que c'est une bonne balance aussi avec notre métier d'avocat. Ce qu'on propose dans le cadre du Barreau des Arts, c'est vraiment aider les plus précaires qui n'auraient pas accès aux droits. Et dans ma vision du métier, c'est quelque chose qui est important. Ouais.
Et dans les rares cas où l'artiste est obligé de faire appel aux tribunaux pour trancher un litige, le Barreau des Arts peut faire jouer le droit de suite et obtenir une prise en charge des frais d'avocat de leurs bénéficiaires.
Olivier Roger pour nous parler de ce Barreau des Arts. Merci beaucoup. Merci aussi à Laurent Hérault qui réalisait cette demi-heure africaine L'actualité du continent qui revient en longueur à 4h30 en temps universel avec Sébastien Duhamel. Je salue ce matin Valentin Bossa, vous nous écrivez depuis Kisangani en République démocratique du Congo. Vous êtes toujours hyper connecté pour nous suivre. On vous en remercie. Le journal dans 30 secondes.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Le grand sud de Madagascar, habituellement en proie à la famine et à la sécheresse, fait aussi face aux cyclones et aux tempêtes. Des phénomènes naturels aggravant les problèmes d'accès à l'eau et aux services d'assainissement. Quelle solution pour les populations locales?
Un jour au village avec Penaï Traoré, tout à l'heure à 13h10 TU sur RFI.